Vous êtes à l'écoute de RFI, il est 20h à Paris, 22h à Mayotte. Et le journal, c'est avec vous, Mathis Limano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition internationale, l'électricité rétablie dans tous les foyers à Mayotte d'ici fin janvier. Promesse de François Bayrou, le Premier ministre en déplacement aujourd'hui avec plusieurs autres ministres. Il a aussi garanti que l'archipel sera reconstruite en 2 ans, mais sans bidonville, il ne veut plus en voir sortir de terre. Des annonces qui ont convaincu. Selon François Bayrou, il est maintenant en route pour la Réunion. Également la une, la visite à Damas du chef de la diplomatie ukrainienne. Il a réaffirmé son souhait de voir les forces russes partir du pays. Et puis en Serbie, plusieurs responsables inculpés après la chute du toit de la gare de Novi Sad. À Mayotte, je vous le disais, cette visite de François Bayrou sur l'archipel. Il a notamment visité une usine de dessalement et un collège de Mamoudzou. À la fin de la journée, il a annoncé une batterie de mesures plus de 2 semaines après le passage du cyclone. Le Premier ministre promet le retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier, le rétablissement de la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone, également des prêts garantis par l'État pour aider les victimes mais aussi les entreprises. Quant au bidonville, François Bayrou veut empêcher toute reconstruction. Avant de quitter Mayotte, le chef du gouvernement s'est dit convaincu d'avoir répondu aux attentes des Mahorais.
Vous avez entendu les applaudissements des élus et vous avez entendu les réactions qu'ils ont indiquées en disant qu'ils trouvaient que les réponses que nous avions apportées ensemble correspondaient à leurs attentes. Par exemple, la création d'une zone franche globale pour qu'on puisse passer de l'économie souterraine à une économie régulière. Et plus important encore à mes yeux, le recensement précis de la population qui permettra de savoir exactement où on en est à Mayotte. Et donc tous ces efforts-là, je crois, ont répondu à l'attente des élus. C'est ce qu'on nous a dit à peu près toute la journée. J'ajoute qu'il va falloir qu'on garde les écoles, parce que les écoles, même intactes, elles sont aujourd'hui si souvent pillées, incendiées. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on rétablisse l'ordre et qu'on surveille la protection des écoles.
Des écoles qui rouvriront leurs portes le 20 janvier, soit 1 semaine après la rentrée initialement prévue. François Bayrou et sa délégation ministérielle sont à présent dans l'avion, direction La Réunion. Eux sont arrivés il y a un peu plus de 2 heures. Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot sont arrivés à Beyrouth. Les ministres français des armées et des affaires étrangères en visite de 3 jours au Liban. Ils vont passer le nouvel an avec les forces françaises de la FINUL, les casques bleus déployés au sud du Liban. En Syrie, la préparation d'élections pourrait prendre jusqu'à 4 ans. Déclaration hier du nouveau dirigeant syrien lors d'une interview, Ahmad al-Shareh, qui a reçu aujourd'hui une visite surprise à Damas, le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga. Ce dernier n'a pas caché l'ambition de l'Ukraine après la chute de Bachar el-Assad, éliminer la présence russe dans le pays. Daniel Valo, pas sûr cependant que les nouvelles autorités syriennes l'entendent de cette oreille.
L'Ukraine a rompu toute relation diplomatique avec la Syrie en 2022 après la reconnaissance par Damas de l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais avec le renversement de Bachar el-Assad, la diplomatie ukrainienne a bien l'intention de renouer avec la Syrie. Principal message apporté par Andriy Sybiga, le chef de la diplomatie ukrainienne, les nouvelles autorités se doivent de tourner le dos à la Russie.
Le régime russe et le régime de Bachar el-Assad se sont soutenus mutuellement parce qu'ils étaient fondés sur la violence et la torture. Et nous sommes convaincus que l'élimination de la présence russe en Syrie contribuera à la stabilité non seulement de l'État syrien, mais aussi de l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Cet argument très géopolitique suffira-t-il à convaincre le nouvel homme fort de Syrie? Rien n'est moins sûr. La Russie est un pays important, a ainsi déclaré ce dimanche Abu Mohammad al-Joulani, qui pointe les liens noués dans les secteurs de la défense et de l'énergie. Pour convaincre la nouvelle Syrie de rompre au plus vite avec Moscou, l'Ukraine a cependant un argument de poids. Kiev pourrait en effet apporter à la Syrie les céréales que la Russie fournissait au régime de Bachar el-Assad. La visite du chef de la diplomatie ukrainienne à Damas a d'ailleurs coïncider avec l'annonce par Volodymyr Zelensky d'une aide alimentaire de 500 tonnes de farine de blé qui devrait arriver ce mardi en Syrie.
Dans ce contexte, la Russie annonce avoir procédé à un échange de prisonniers avec l'Ukraine. 150 soldats russes et ukrainiens confondus auraient été remis à leur pays. Un échange de prisonniers qui s'est fait sous la médiation des Émirats Arabes Unis. La Russie, de plus en plus sous pression après le crash de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines. Ilham Aliyev a reproché hier à Moscou d'avoir voulu camoufler les vraies raisons du crash qui a tué 38 personnes. Un coup de pression plutôt efficace du président de l'Azerbaïdjan, car la justice justice russe a fait savoir qu'elle rechercherait les responsables de cette catastrophe pour les traduire en justice. RFI Moscou, Jean-Didier Revoin.
Moscou a assuré Bakou que des mesures intensives étaient prises pour identifier les responsables de la catastrophe dont un avion d'Azerbaïdjan Airlines a été victime mercredi alors qu'il tentait d'atterrir à Grozny. Alexandre Basrikin, patron du comité d'enquête russe, a de la même façon assuré à son homologue azerbaïdjanais Kamran Aliyev que ses responsables seraient traduits en justice. Dans le même temps, il lui a annoncé que les enquêteurs les plus expérimentés avaient été mis sur ce dossier afin d'établir toutes les causes et les circonstances de cette tragédie. L'entretien téléphonique des deux hommes a eu lieu au lendemain d'une prise de parole très ferme du président azerbaïdjanais. Ilham Aliyev avait en effet accusé dimanche Moscou d'avoir voulu camoufler les circonstances réelles de cet accident et exigé des autorités russes qu'elles reconnaissent leur culpabilité, qu'elles indemnisent les victimes et que les responsables de cette catastrophe soient punis. Vladimir Poutine s'était excusé samedi auprès d'Ilham Aliyev non pas d'avoir abattu cet avion civil mais parce que cet incident tragique s'était déroulé dans l'espace aérien russe au moment où une attaque de drones ukrainiens avait lieu dans la région de Grozny. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
La Corée du Sud lance une inspection complète de tous ses avions Boeing 737-800, annonce qui survient au lendemain du crash dans le sud-ouest de la Corée. 179 personnes ont été tuées, seuls deux membres d'équipage ont survécu. La Corée du Sud a décrété 7 jours de deuil national. Vous êtes bien sur RFI, 20h passées de 6 minutes à Paris et Belgrade. L'ancien ministre serbe des Transports, Goran Vesic, et 12 autres personnes ont été inculpées aujourd'hui pour atteinte grave à la sécurité publique dans l'affaire de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad. Un drame qui a fait 15 morts début novembre, Laurent Rouy.
40 jours après leur arrestation suite à l'effondrement mortel du haut-vent de la gare de Novi Sad qui avait fait 15 morts, 13 hauts fonctionnaires sont formellement inculpés par le parquet d'atteinte grave à la sécurité publique. Parmi eux, l'ancien ministre des Transports Goran Vesic et la directrice des infrastructures ferroviaires. Cette étape de procédure est inhabituellement rapide pour la justice serbe. Pour le Premier ministre, c'est la preuve que personne ne cherche à cacher la vérité dans cette affaire. Au contraire, cette inculpation est accueillie avec circonspection par les étudiants en grève qui bloquent les universités justement pour que la lumière soit faite sur l'accident de Novi Sad. Les étudiants demandent notamment la démission du Premier ministre et critiquent aussi le président Aleksandar Vučić en raison de la corruption et du clientélisme qui est la marque du pouvoir en place. Alors que le régime ne parvient pas à trouver la parade à la contestation populaire, étudiants et opposition estiment que ces inculpations ne sont qu'une énième tentative d'étouffer la crise. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Il y aura un nouveau procès dans l'affaire des viols de Mazan à la fin de l'année prochaine. 17 des 51 condamnés ont annoncé faire appel. Ils devraient comparaître cette fois devant un jury populaire. Le principal condamné, Dominique Pellicot, n'a lui pas fait appel, Sylvie Coffi.
Une semaine après le verdict, Dominique Pellicot, condamné à la peine la plus lourde, 20 ans de réclusion pour viol aggravé sur sa femme, accepte la décision rendue par la cour criminelle du Vaucluse. Cela contraindrait Gisèle à une nouvelle épreuve, à de nouveaux affrontements, ce que mon client Dominique Pellicot refuse, explique son avocate Béatrice Zavaro. Elle ajoute que ce serait courir un risque inutile en appel, les faits pouvant être requalifiés, une sanction encore plus lourde pourrait lui être infligée. Son client étant âgé de 72 ans et en raison de sa santé, il vaut mieux se battre sur un autre terrain en essayant d'obtenir de la justice un aménagement de peine. Pourtant, un nouveau procès aura bien lieu. Cette fois, devant une cour d'assises composée d'un jury populaire, car sur les 50 co-accusés, il serait 17 à contester le verdict.
Les précisions signées Sylvie Coffi. Benjamin Netanyahou salue le rôle pour la paix qu'incarnait Jimmy Carter. Le 39e président américain de 1977 à 1981 était l'artisan des accords de Camp David entre l'État hébreu et l'Égypte, accord toujours en vigueur. Jimmy Carter est mort à l'âge de 100 ans. Les drapeaux américains sont en berne. Joe Biden annonce un jour de deuil le 9 janvier prochain. Et puis du changement sur le banc de l'AC Milan. Le sélectionneur portugais Paulo Fonseca licencié par le club. Il est remplacé par son compatriote Sergio Conceição. L'AC Milan vit une saison en deçà des espérances. Il pointe à la 8e place avec 14 points de retard sur le leader Bergame. RFI, il est presque 20h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.